Donc, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. On est à notre premier cours de Actes des Apôtres en l'année de grâce 2021. On va continuer nos études. Donc, on va tout simplement, quoi comme il se doit, prier avant de débuter. Ensuite de ça, une légère rétrospective sur le dernier cours. Et suivant ça, on va reprendre où on en était. Donc, Seigneur, merci Seigneur de l'opportunité, ô Dieu, que nous avons de regarder ta parole. Seigneur, il y a dans des lieux, dans des pays, chez certaines nations, où cette liberté-là de communiquer la parole de Dieu, n'est pas aussi facile, voire même à certains endroits illégal. Donc, Seigneur, nous ne pouvons que rendre grâce, Seigneur. Nous ne pouvons que te remercier et rendre grâce de cette miséricorde, Seigneur, que tu as, de cette opportunité-là, Seigneur, que nous avons de pouvoir s'assembler ainsi, Seigneur, en toute liberté. On n'est pas là physiquement. Mais ça semblait tout de même par les médias sociaux et pouvoir quand même regarder ta parole. Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, toute la sagesse, l'intelligence, pour que bien comprendre que ta parole soit bien acquise, Seigneur, dans nos pensées, mais surtout dans nos cœurs, ô Dieu. Je te remets ton peuple dans tes mains. Je me remets moi-même, Seigneur, entre tes bonnes mains, demandant miséricorde sur eux comme sur moi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes rendus, je me vois en double. Merci, Lionel. Donc, on avait regardé la semaine dernière, ce que je reprends très brièvement un peu avec vous, surtout les deux derniers points qui étaient les points un peu central de ce qu'on avait vu lors de la dernière intervention. Et je vous avais dit, pour terminer, que les apôtres ne fuyaient pas leurs responsabilités, ni ne mettaient les problèmes sous le tapis en niant leur existence ou en pas prenant acte et position. Pour les différents besoins, les différentes choses qui se passaient dans l'Assemblée. Et je vous avais donné pour cause, et c'est là que je vous ramène un peu dans notre sujet, pour cause les Hellénistes qui ont soulevé une plainte via les Hébreux, les Juifs, pour dire que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait des biens. Vous pouvez retrouver ça à l'enseignement passé. Et donc, il y avait une plainte et ils disaient, nos veuves sont négligées dans la distribution qui se fait tous les jours des biens communs de l'Église. On sait que dans ce temps-là, il n'y avait pas le filet social qui existe dans nos sociétés aujourd'hui, bien que le filet social existe dans ce pays-ci, existe dans bien d'autres pays, mais même de nos jours, le filet social n'existe pas dans tous les pays. Il y a dans certains pays où ce filet social-là qu'on a, nous, c'est-à-dire que ce soit l'assurance emploi, que ce soit pour les personnes seules ou l'aide sociale aussi pour les personnes malades et ainsi de suite. Il y a dans beaucoup de pays, ces choses-là n'existent pas, même de nos jours, mais dans ces temps-là, naturellement, les gouvernances étant moins bien ou structurées différemment, je vous dirais. Donc, ces choses-là n'existaient pas. Et donc, les gens âgés, les gens dans le besoin, les gens infirmes, les gens malades, avaient d'autres moyens de subsistance, dont l'exemple qu'on avait vu du boiteux à la belle porte du temple, croisé par Pierre et Jean. On avait aussi les bien-aimés qui prenaient soin des autres on parle là, dans les familles intrafamiliales, c'est-à-dire que les personnes âgées étaient prises en charge par les plus jeunes. Ça a subsisté d'ailleurs pendant des dizaines de centaines d'années, soyons clairs. Et aujourd'hui, on prend, et ça donne ça comme ça, aujourd'hui, on prend nos personnes âgées et souvent, on les met dans des endroits, on les parque ensemble. Mais dans ces temps-là, et même là, deux générations derrière nous, ça ne fonctionnait pas comme ça. Et donc, dans ces générations-là, particulièrement dans ce cas-ci, les chrétiens subissaient des persécutions. Les chrétiens se faisaient arracher leur terre parce que quiconque se déclarait contre César, naturellement, était en représailles. Et quand tu admettais Jésus comme Seigneur, Sauveur était une chose pour eux, mais comme Seigneur sur ta vie, c'est que César n'était plus le Seigneur de ta vie. Et tu pouvais être ainsi privé. De ton bien-être, de ta terre, de ta maison, et ainsi de suite. Et cela a eu cours pendant un certain temps et pas à une échelle énormément grande, mais a eu cours. Et ici, à Jérusalem, ce qu'on trouve, c'est que les premiers groupes qui s'assemblaient, à un moment donné, ont vendu des terres, des maisons, et ainsi de suite. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'Étienne. Ils se faisaient une distribution entre tous selon les besoins de chacun, nous dit la parole de Dieu. Et les veuves, étaient naturellement des personnes plus susceptibles à être dans le besoin dû à leur âge, pouvant moins travailler, dû à leurs conditions. Donc, se trouvaient, eux, plus dans le besoin. Et il est survenu, lors de la distribution des biens, un épisode où les hellénistes se sont plaints aux apôtres. En disant nos veuves sont négligées. On avait vu ça la semaine dernière, où il dit nos veuves sont négligées dans les distributions des biens. Les apôtres, non, niant la chose, même si eux étaient responsables de l'ensemble, au début, les apôtres, rappelez-vous, géraient à peu près tous les domaines de l'Église, y compris le bien-être physique au niveau, de la nourriture et ainsi de suite. Sûrement aidés de personne, mais était de leur responsabilité. Et on a vu que les apôtres, voyant la chose, voyant que la tâche était trop grande, voyant que des choses leur échappaient, vont dire aux hellénistes, en fait, dire à l'ensemble du peuple, nommez parmi vous cet homme de qui on rend un bon témoignage. Et qui sont pleins d'Esprit Saint. C'était un peu les deux critères de base. Et ici, on voit le premier groupe de diacres qui est formé. Rappelez-vous, je vous parlais la semaine dernière, un peu, si je peux m'exprimer ainsi, de notre diacre principal à nous, qui est le frère Lionel. Et je vous disais, le frère Lionel, il y a d'autres personnes d'attachées à lui, comme la sœur Patricia qui va l'aider, et beaucoup d'autres, que personne ne se sente oublié. Ce n'est pas des remerciements que je fais, c'est un cours, soyons clairs, mais on appelle les choses par leur nom. Le frère Lionel étant le diacre principal à ce niveau. Donc, nous-mêmes, en tant que collège pastoral, quand on a des besoins ou qu'on voit des choses, c'est avec lui qu'on fait affaire, ou c'est avec lui, par lui qu'on va pourvoir à des gens ou même des gens dans le besoin vont venir nous voir, on va les diriger vers lui pour garder le bon ordre. Et aussi, par le fait même, garder aussi notre temps au corps pastoral, comme l'apôtre Pierre va dire, trouvez parmi vous cet homme de qui on rend un bon témoignage. Qui sont remplis de l'esprit, à qui on va pouvoir confier ces choses-là, qui sont plus factuelles, non pas qui sont moins importantes, et je tiens à le souligner, mais que c'est plus factuel. Il dit, et nous allons continuer à nous appliquer au ministère de la parole et de la prière, premièrement. Et ensuite de ça, bon, il y a d'autres choses, d'autres affaires qui se sont greffées par la suite des temps, mais rappelez-vous, je vous ai dit, principalement, le rôle pastoral, c'est d'enseigner le peuple. Le rôle pastoral, c'est de prier pour le peuple. et de prendre soin du peuple, d'apporter les soins au troupeau. Donc, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, ce qui m'amène à vous parler du mouvement comme tel qui existait à Jérusalem, qui va être dispersé un peu plus loin, qui va être dispersé après le meurtre d'Étienne. Donc, on a vu que dans Jérusalem, l'Église a commencé à se structurer, à mettre de l'ordre en mettant des diacres en place, mais le mouvement chrétien était quand même intimement lié au judaïsme, ou si vous voulez, étroitement lié au judaïsme, c'est-à-dire la forme était la forme judaïque, le fonctionnement était aussi de la même façon. Les chrétiens, d'ailleurs, s'assemblaient dans les maisons, mais fréquentaient les synagogues et le temple. Et vous savez que, mis à part le parvis des gentils, certains accès à des non-chrétiens étaient interdits dans le temple. Donc, le mouvement se limitait à cause de certaines restrictions, à cause de la vision aussi. La vision était évolutive chez les apôtres. On l'a vu et on va le voir encore plus loin avec Pierre principalement. La vision est évolutive. Quand quelqu'un se convertit, rarement la personne, en tout cas moi j'en ai pas vu, qu'elle va avoir toute la révélation. Elle va avoir une révélation de base avec laquelle elle va fonctionner. Elle va être enseignée, elle va acquérir de la connaissance. Avec cette connaissance-là, dans la prière, dans la lecture de la parole, elle va se faire des convictions naturellement vérifiées et vérifiables dans la Bible. Voir les anciens de l'Église, le corps pastoral, va corriger certaines visions qui seraient en porte-à-faux avec la parole que les nouveaux chrétiens auraient, vont les amener à un standard plus élevé dans la parole, mais le tout se fait par révélation, par apprentissage, mais se fait aussi dans le temps. La connaissance n'est pas infuse l'application de cette connaissance-là, voire quelquefois, va avoir un certain laps de temps, si vous voulez, entre l'ingestion et la mise en pratique, si vous voulez. Et donc, l'Église est rendue dans Actes, où on était rendu dans Actes, au chapitre 6. L'Église commence à se structurer, à prendre de l'essor, mais l'Église a une vision juive. L'Église a un mode de fonctionnement juif et la révélation qu'ils ont de Dieu n'est pas encore très large. Et il va avoir une persécution par laquelle il va se produire des choses par lesquelles leurs horizons vont s'élargir. Et pourtant, Jésus leur avait dit, vous allez être mes témoins, où? À Jérusalem, Samarie, Judée, extrémité de la terre. Donc, le plan était là et la mise en pratique devait y être. Et comme les apôtres étaient des hommes normalement constitués, avec une révélation divine, soit, mais normalement constitués, l'être humain a pour habitude de se conforter dans ce qu'il connaît. L'être humain est habitué de fonctionner dans une certaine zone de confort dans laquelle, des fois, Dieu est obligé de le pousser hors, de le faire sortir à l'extérieur de cette zone-là, même si pour cela, il doit se passer des événements qui sont même parfois dramatiques, des événements qui vont le heurter. Donc, sachez bien une chose, en commençant d'entrée de jeu, on va parler d'Étienne. Et je vais vous faire une longue lecture aujourd'hui. Même si au cours de tout le cours des actes-là des apôtres, j'espère que vous allez apprendre quelque chose, même si vous n'apprendriez rien, soyons clairs, de nouveau, que vous ne sachiez déjà, au moins vous allez avoir lu Actes des apôtres en entier, parce que j'en sauterai rien, soyons clairs. Donc, si vous tournez dans Actes des Apôtres, au chapitre 6, les versets 8 à 15 pour débuter, suivant ça, on va faire une bien plus longue lecture que cela. On va voir un des diacres, Étienne, que Dieu va l'amener un peu plus loin dans son ministère. Et c'est un peu ce que je vous disais la semaine dernière. Dieu nous fait commencer souvent à un endroit. Je n'ai jamais vu personne commencer, puis le Seigneur l'appeler directement, puis qu'un dimanche matin, un monsieur nowhere, qu'on ne connaît pas, monte sa tribune. Le pasteur Florent lui met le micro dans la main et dit « Voilà votre nouveau pasteur, merci beaucoup. » Généralement, ce n'est pas comme ça que les choses se produisent. Dieu va placer la personne, va y laisser avoir son témoignage. Et c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes chrétiens, votre témoignage, ça vaut de l'or. C'est une expression que je prends ici. Ça vaut cher. Pourquoi? Parce que c'est avec votre témoignage que Dieu va fonctionner et va vous amener plus loin. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, choisissez cet homme de qui on rend un bon témoignage. Pas juste un témoignage, un bon témoignage. Qui soit rempli de sagesse et d'Esprit Saint, et on va les charger de cet emploi-là. Donc, il y a des gens qui s'étaient déjà fait remarquer, qui avaient un bon témoignage, qui étaient remplis de sagesse, d'Esprit Saint. Et Étienne était un de ceux-là par lequel Étienne a commencé un ministère en tant que diacre. Et on va voir que Étienne, son ministère se transforme. Oui, certains vont dire, il y a eu un ministère très court, mais très fructueux. Et je vous le répète, Dieu ne voit pas la vie et la mort comme nous, on la voit. Je vous ai déjà expliqué le principe. Donc, au verset 8, on va regarder un peu Étienne. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins et qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Et tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Donc, Luc va commencer cette nouvelle section-là, parce qu'on a terminé une section d'Actes des Apôtres la semaine dernière, cette nouvelle section-là, en mettant l'accent sur la spiritualité d'un homme en particulier, d'Étienne, que le Seigneur permet que par ses mains s'accomplissent des miracles. Étienne avait un bon témoignage. Il était diacre. Il avait un bon témoignage, plein de sagesse, plein d'Esprit Saint. Dieu l'amène plus loin. Avec plein d'Esprit Saint, il se fait des miracles, avec son bon témoignage, va vers l'avant, et avec sa sagesse, va réfuter les contradicteurs. Les contradicteurs qui vont l'amener devant le Sanhédrin. Il se trouve mêlé à un débat avec des Juifs de provinces voisines de Jérusalem, dans la Palestine. Si vous vous posez la question, là, il y a une question que les gens me posaient souvent quand je donnais le cours au verset 9. Quelques membres de la synagogue disent des affranchis et celles des Alexandrins et des Cyréniens. Okay? C'est des synagogues qui appartenaient à des villes, Alexandrins et Cyréniens, mais aussi à des écoles de pensée qui portaient d'ailleurs le même nom parce que ces gens-là venaient de la même endroit. Mais les synagogues dites des affranchis, selon toute vraisemblance, selon les étudiants de la parole de Dieu, la synagogue dite des affranchis, c'était des Juifs et même d'autres personnes aussi qui s'étaient fait amener à Rome sous Pompée comme esclaves et par divers moyens de rachat, de paiement, de mise en grâce par l'empereur et ainsi de suite, avaient retrouvé leur liberté. Et les gens qui avaient déjà été esclaves et qui étaient relâchés, on appelait ça des affranchis, des gens qui étaient affranchis. Eux auraient formé une synagogue dite des affranchis, une synagogue bien à eux, comme souvent les gens qui sont nés soit de pays différents, soit d'expériences différentes, de conditions différentes, sont portés à se regrouper ensemble. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Donc, ça, c'est pour la synagogue des affranchis. Et comme je l'ai dit, la majorité des étudiants de la Bible pensent que ces gens-là ont acquis leur liberté de différentes façons, comme je vous ai expliqué. L'essence maintenant de l'argument, de l'argumentaire d'Étienne, dans les prochains versets. Si on regarde de quoi on l'accuse, on l'accusait de parler contre le temple et contre la loi. Il dit, il l'accusait de la parler contre ce lieu, il parlait du temple, et contre la loi de Moïse. Ça, c'est pour attendrir les gens. Naturellement, c'était inexact. C'était pas vrai. Quelle arme était utilisée par les faux témoins? Ce qu'on appelle l'arme du préjugé. L'arme du préjugé qui est encore court de nos jours. Que ce soit pour les questions raciales, que ce soit pour les questions linguistiques, que ce soit pour les questions de croyance, soyons clairs, beaucoup de personnes, et je n'apprendrai rien à une bonne partie d'entre vous, beaucoup de personnes, quand on leur témoigne de l'Évangile, nous regardent un peu, et croyez-moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, vont nous regarder un peu avec condescendance, comme si on était des pauvres types qui se sont fait berner dans une patente, dans une bébelle. Je me rappelle de quelqu'un dans ma propre famille qui m'avait dit, « À un moment donné, André, là, tu vas te réveiller puis tu vas changer. Là, c'est une crise. Tu vas sortir de ta patente, de ta bébelle. » Et ces gens-là nous regardent un peu comme si on était... ils le font gentiment, là. Mais comme si on était un peu bébête, là, OK? Comme si on connaissait pas grand-chose ou on comprenait pas grand-chose. D'ailleurs, souvent, les gens qui vont être un peu plus instruits que la majorité vont regarder, vont être portés à regarder les gens un peu avec condescendance à cause de la connaissance qui les habite. Et encore plus, s'ils croisent un homme qui est croyant, qui va leur témoigner de la parole de Dieu, pour eux autres, vont dire, c'est le summum de la bêtise. Hein? Je me rappelle d'un homme avec qui, dans le temps où j'avais mon travail de façon tout à fait séculière, à mon emploi, et je me rappelle qu'à un moment donné, on était au bureau, on parlait pour certaines choses, il m'avait dit, André, je ne peux pas croire, et je sais qu'il voulait me flatter, là, je ne crois pas que je suis si intelligent que ça, là, mais il dit, je ne peux pas croire qu'un homme aussi intelligent que toi, tu peux se croire à ça. Et moi, je lui avais répondu, aujourd'hui, cet homme-là est décédé, je lui avais répondu, Robert, je ne peux pas croire qu'un homme aussi intelligent que toi ne croit pas à ça, ne croit pas à la parole de Dieu, parce que c'est intelligent de croire la parole de Dieu. Donc, les préjugés demeurent. Et souvent, quand on parle de la parole de Dieu, ces préjugés-là vont faire surface et ces préjugés-là vont entrer en collision, si vous voulez, avec... vous allez vous apercevoir que les gens vous prennent quelquefois un peu un demeuré, comme si on n'avait pas tout notre bon sens, soyons clairs. Et ici, au niveau religieux, je vais appeler ça comme ça, et je vais même m'avancer au niveau de la foi, au niveau croyance, Pour moi, je vais traiter ça de deux choses différentes. C'est-à-dire dire ici, on pratiquait une religion et on se confortait dans une religion. On allait au temple, on faisait des choses toujours de la même façon. On organisait toujours des choses de la même façon. Des choses, et ça rassure les gens. Est-ce que vous savez une chose? Exemple, à moi et à mon épouse, dans le temps, on nous confiait des enfants qui avaient eu beaucoup de difficultés en début de parcours, en début de vie. Il disait, la routine, c'est important pour ces enfants-là. Ça les réconforte, ça les conforte. Et c'est vrai. Et ce n'est pas tellement différent pour vous et moi, les adultes. La routine nous conforte. Quand Dieu nous sort de notre zone de confort, eh bien, on devient inconfortable. Voire, on peut devenir anxieux. Et ainsi de suite. Et une des fonctions, et je vous parle tout simplement de la religion de maintenant, c'est de conforter les gens, juste de les conforter. Eux, allaient au temple, eux avaient cadré leur vie selon la loi de Moïse, pas que la loi était mauvaise, mais la loi n'était pas la fin. La loi était un pédagogue pour nous conduire à la vérité qui est Jésus. La loi, comme je disais à un moment donné, j'enseignais un groupe et je le disais, la loi, un groupe un peu plus avancé que le cours que je donne ici, je disais, la loi était non seulement un pédagogue, mais la loi servait aussi à réguler un mal qui s'appelle le péché. Si Adam et Ève n'auraient jamais péché, il n'y aurait pas eu de loi. La loi a existé parce que Dieu a dû réguler un mal. Et en régulant ce mal-là, et c'est ce que Jésus va dire très, très bien dans l'évangile de Matthieu, entre autres, quand les pharisiens vont dire, « Nous est-il permis de répudier nos femmes? » Il va dire, « Moïse vous a donné ça, pas que ça c'est parfait. Moïse vous a donné ça à cause de la dureté de votre cœur. À cause de quoi? À cause du péché, en fait. » Il dit, « On n'était pas ici au commencement. On n'était pas ici au commencement. » Et ici, on voit des gens qui prennent Étienne, l'amènent devant le Sanhédrin. Fausse accusation sur deux choses, deux cordes sensibles. Le temple, qui était une sécurité, et la loi, qui était un code. Et par ça, ils vont, et par cette arme-là du préjugé, ils vont, sous la colère du peuple, ils vont amener Étienne devant le Sanhédrin. Pour le juger, les adversaires vont faire appel à de faux témoins. Rien de nouveau sous le soleil. C'est exactement ce qu'il avait employé comme technique pour le maître d'Étienne, c'est-à-dire Jésus. Il avait employé la même technique. Un disciple, la parole de Dieu nous dit, n'est pas plus que son maître. Si on fait ça au maître, ils vont le faire au disciple. Et c'est exactement ce qu'on voit ici avec Étienne. Luc va relever que le Sanhédrin, ici, regarde Étienne et son visage leur parut comme un ange. Le terme qui est employé ici dans le grec, angelos, okay, le terme ange, d'ailleurs, veut dire envoyé, un porte-parole, un envoyé. C'est le même terme qu'on trouve dans l'Apocalypse, quand il dit écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, de Smyrne, de Laodicée, aux envoyés, si vous voulez. Le terme qui s'y accroche, angelos, au niveau de quand ils l'ont regardé, veut dire aussi lumineux, veut dire aussi qu'ils l'ont regardé et visiblement que Étienne avait passé du temps dans la présence de son maître. C'est ce que je veux relever. Les gens veulent faire des miracles. Les gens veulent que leurs paroles soient écoutées. Le temps de prière n'est pas optionnel. Le temps passé dans la présence du maître, de celui qui peut infléchir ton auditeur, de celui qui peut captiver l'attention de l'autre, de celui qui peut te faire trouver grâce devant l'autre. C'est Jésus. Et pour ça, il faut refléter Jésus dans notre conduite, voire même dans notre regard et dans notre façon d'être. Et pour cela, Étienne a été un excellent témoignage. Le Sanhédrin, qui était là pour le juger, l'a regardé et son visage, la parole de Dieu nous dit, quand ils l'ont regardé, leur a paru comme celui d'un ange, d'un envoyé, ou de, je vais en aller plus clairement, de quelqu'un qui avait passé du temps dans la présence de son maître. Donc, d'abord ça pour Étienne. Ensuite de ça, on va regarder son jugement. Étienne, je récapitule rapidement, un converti helléniste de qui on rend un bon témoignage, puisqu'il est amené comme diacre, plein d'Esprit Saint, comme je vous ai dit tantôt, plein de sagesse, il savait répondre à ses détracteurs. Ses détracteurs ne savent plus quoi faire avec, ne trouvent pas les mots pour lui répondre, soudoient des gens, mentent, l'amènent devant le Sanhédrin, et là, on va assister à son procès, si vous voulez. Donc, longue lecture à partir d'ici, du chapitre 7 de Actes des Apôtres, des versets 1 à 53. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi? » Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude. On la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis, Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le huitième jour. Isaac engendra et circoncit Jacob et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils d'Amor, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui eut exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint à cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? » À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui est apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Vos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme il l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisit sur la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par des nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'aux jours de David. David trouva grâce au Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui bâtit la maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, vous ne l'avez point gardé. C'était une longue lecture nécessaire parce qu'on va lire toute la Bible des actes, des apôtres, mais aussi pour marquer certains jalons. C'est certain que si je m'arrêterais à verset par verset à tout le texte qu'on vient de prendre, sûr et certain qu'on resterait probablement des semaines sur ces versets-là. Mais on étudie un livre, donc on va en tirer le message d'Étienne. Le message s'adressait au peuple puis au Sanhédrin. Donc, il leur donne un terrain, il leur donne des exemples forts auxquels eux peuvent avoir référence pour leur temps. C'est-à-dire, si on regarde ce qui est expliqué par Étienne au Sanhédrin, que le Sanhédrin connaît déjà, mais que Étienne va un peu actualiser par sa propre mise en accusation, parce qu'eux avaient rejeté Jésus, lui-même, Étienne, va citer en exemple l'histoire du peuple d'Israël. Et j'y vais un peu rapidement, là, mais il va citer les grandes lignes de l'histoire que vous pouvez trouver dans Genèse et dans l'Exode principalement. Il va parler de l'appel d'Abraham à sortir de Chaldée, de Ur en Chaldée. La Chaldée, c'était l'ancien endroit en où on trouve des prêtres chaldéens de l'ancienne Babylonie. Donc, Abraham est appelé du milieu d'un peuple idolâtre pour servir Dieu. Dieu le met à part. Abraham fait un petit arrêt à Charan. Il n'obéit pas quand je vous dis que la révélation, elle est progressive, mais l'obéissance l'est aussi bien souvent. Il s'arrête avec son papa à Charan, qui n'est pas l'endroit où Dieu lui a dit d'aller, jusqu'à la mort de son papa. Et ensuite de ça, il se rend jusqu'en Mésopotamie. Je ne vous donnerai pas toutes les tenants, tous les aboutissants. Je vous l'ai dit, on n'étudie pas Genèse, mais on étudie Actes des apôtres. Je vous en tire tout de même certaines leçons importantes. Et ensuite de ça, il va donner une série d'exemples à partir d'Abraham, de la formation du peuple. Et il va donner une série d'exemples qui va leur servir s'ils réfléchissent comme il faut. Il va donner des jalons clairs où Dieu a agi en dehors du temple, où Dieu a agi en dehors de Jérusalem, où Dieu a agi à partir de des pays étrangers. Il a appelé un homme, il l'a appelé à partir d'un lieu idolâtre, à sortir de là. Il lui a parlé dans un lieu idolâtre. Il l'a fait sortir et a fondé ce qui allait être une nation. Joseph est vendu en Égypte et Dieu est avec Joseph en Égypte. Et c'est le cœur un peu du message, si vous voulez. Joseph est en Égypte, mais Dieu est avec lui. Dieu n'est pas à Jérusalem et il veut élargir leur vision, élargir leur compréhension, parce qu'eux ont une vision tunnel. Comme souvent, des gens vont avoir une vision tunnel concernant leur Église. Ils vont dire, le salut ne se trouve que chez nous. Moi, je dis souvent, on n'amène pas des gens à l'Église, on amène des gens à Jésus. On les affermit à l'Église. Les gens, ce n'est pas notre Église qui sauve. Notre Église, elle ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. C'est d'appartenir au peuple de Dieu qui sauve. Oui, il faut joindre les personnes à une église locale, à un corps local. Et quand on amène des personnes, sûr, on les amène à notre église. Pas parce que notre église est meilleure que toutes les autres églises, ça nous permet de mieux suivre ces âmes-là et d'en prendre soin et de les faire croître. Soyons clairs. Donc, Étienne va donner plusieurs exemples de même. Il va donner l'exemple de l'appel d'Abraham. L'exemple de Joseph vendu en Égypte, avec lequel Dieu est, l'exemple de Moïse qui est pris d'Égypte, avec qui Dieu est, et Moïse fuit l'Égypte, s'en va dans un autre lieu, en Arabie, et soyons clairs, Dieu est là avec lui. Dieu lui apparaît même sur une montagne. Dieu lui parle. Dieu lui dit des choses. Dieu l'appelle à retourner en Rome. Il dit, il y a même un ange qui va t'accompagner. Et suivant ça, on trouve une succession de choses qui vont être dites par notre frère Étienne. Et où je veux attirer le plus, un peu plus votre attention à ce niveau-là, au verset 37. Il va citer Moïse parce que Moïse fait force de loi dans le Sanhédrin. Verset 37 va dire, c'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et ici, il parle directement du Christ, directement de Jésus. Et Jésus va se servir de cela lors, relaté dans les évangiles, lorsqu'il va s'adresser au peuple. Il va se servir de ce passage-là pour montrer qui il est. Ces gens-là auraient pu savoir qui était Jésus. La parole de Dieu nous dit que Dieu va même faire des reproches à Israël, même quand le peuple est formé, même quand il les accompagne dans le désert, même quand il nourrit en disant, vous êtes désobéissants. Soyons clairs, quand les deux tables de la loi ont été brisées, que Moïse a retourné pour faire les tables, ils sont révoltés deux fois, en fait. Soyons bien, bien clairs. Ce que Étienne va dire peut vous appartenir à vous et à moi. Je ne dis pas que ça nous appartient à vous et à moi. Peut nous appartenir à vous et à moi. Le verset 51, Étienne, après avoir cité le tout, va dire « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, et c'est pour ça qu'il leur a donné ça, vous l'êtes aussi. » Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Soyons bien, bien clairs. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, souvent des chrétiens vont dire, « Oui, mais il faut être de son temps, pasteur. Il faut faire attention. C'est certain, si on me demande, est-ce que j'ai encore une télévision noir et blanc? Je vais vous dire non, ma télévision est couleur. J'ai même une télévision plate. Je trouve ça plate, la télévision, là, mais en plus plate. Soyons clairs. Tantôt, je disais à ma femme, et le frère Lionel me dit, hey, je faisais le test de son pendant que tu as dit, parce que mon épouse, la pièce contiguë à mon bureau, j'ai deux portes qui se ferment, mais je la laisse ouverte. Et cette pièce-là, eh bien, c'est mon salon qu'il y a là. La télé est dans mon salon parce que je ne veux pas le salon sur le même étage que ma cuisine. Et ma femme est en train de terminer, je ne sais pas, c'était peut-être les nouvelles. Et je lui dis, eh, Manon, généralement, c'est 15 minutes, mais là, il faut que tu fermes la télé parce que mon cours va débuter dans 5 minutes. Et le frère Lionel me disait, on t'a entendu. Et savez-vous pourquoi qu'on m'a entendu et ainsi de suite? Parce que le médium que j'ai là devant moi, l'ordinateur que l'Église a mis devant moi, là, qui est ici, là, que je bouge comme ça, là, cet ordinateur-là, la façon de fonctionner de ces choses-là, je les connais mal. D'ailleurs, j'ai mis le frère Lionel dans le trouble tantôt. Parce que quand j'ai ouvert l'ordinateur, que je rouvre cet ordinateur-là, qui appartient à l'Église, une fois par semaine, parce qu'il y a une caméra après cette petite affaire-là, et après mon ordinateur, moi j'ai un ordinateur antique, là, qu'on pourrait peut-être entrer en musée, je ne sais pas, parce que moi je me sers de ça juste pour écrire, principalement. Ça me sert un peu comme une machine à écrire, j'ai plus de machine à écrire, assurez-vous, mais ça me sert un peu de cette façon-là, pour les textes que je produis, d'accord? Et le frère Lionel me dit, ben, on a entendu, je faisais des tests de son, et je ne m'en méfie jamais des tests de son. Hein, j'ai déjà dit des choses à Lionel, à la blague, il dit, André, on est en train de faire un test de son. Vous savez pourquoi? Parce que je suis ignorant de ces choses-là. Je suis ignorant de ces choses-là. Et tantôt, j'ai voulu bien faire, il avait apparu un petit carré quand j'ai ouvert le couvercle de l'ordinateur de l'église, et j'ai dit, ah ben, OK, mettre à jour. Et là, j'ai mis le frère Lionel dans le pétrin. J'ai mis le frère Lionel dans le pétrin, voulant lui en sauver. J'ai contribué à son surplus de travail pour ce soir. OK, soyons clairs. Mon inexpérience, voire mon ignorance a manqué. Peut-être que vous n'auriez pas eu de cours ce soir. Je vous passe les détails. Je trouve ça drôle un peu. Quand je pense, j'ai poussé mon doigt sur le curseur, ça ne fera rien de spécial. Et quand j'ai tapé là-dessus, ça n'a pas donné ce que je pensais du tout. Mais ce que je suis en train de vous dire, même si j'étais ignorant, ça ne l'a pas empêché que j'ai mis le frère Lionel dans l'embarras pendant quelques minutes. Et il m'a dit, André, il faut trouver un autre mot de passe. Donne-moi. J'ai donné un mot de passe selon ma pensée. Et ceux qui connaissent, ben, vous savez que je peux donner des mots de passe bizarres. Okay, donc, je donnais un mot de passe, je dis OK, je vais écrire. Là, je ne manquerai pas, je vais l'écrire moi aussi. Puis ils ont réglé le reste après. Et le reste, je n'ai aucune idée c'est quoi, je le saurai après. OK, soyons clairs. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que mon inexpérience, mon ignorance n'a pas changé la problématique que j'ai apportée. Eux, leur ignorance de la parole de Dieu, leur ignorance de qui était Jésus, Étienne cherche à les ramener à une connaissance. Connaissance qu'il refuse. Connaissance qu'il refuse. On n'aura peut-être pas le temps de tout voir ce soir, mais on peut regarder les grandes lignes. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré, Étienne montre en fait que Adonai, Yahvé, Adonai, a agi dans d'autres époques, a appelé dans d'autres lieux des personnes, différentes personnes. Il va donner l'exemple dans le désert aussi du tabernacle portatif. Il va donner l'exemple de David qui était bien intentionné, qui voulait construire une maison. Et Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui vas construire la maison, c'est ton fils qui va construire la maison. Même si David avait de bonnes intentions, Dieu a des temps, des moments pour tout. Soyons clairs, quand le moment du Messie est venu, même s'ils ne l'ont pas reconnu, le moment du Messie est arrivé. Jésus a paru comme un simple homme. Jésus a donné sa vie pour leur péché à eux, dans cette génération-là, et dans toutes les générations qui ont suivi, jusqu'à cette génération-ci. Et s'il y a 10 générations après celle-ci, ça va être valide pour les 10 générations. La parole de Dieu nous dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a aucun autre nom qu'il y a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Donc, soyons clairs, leur ignorance nous a fait, un, commettre un crime, et deux, ne rien changer entre le rapport entre Dieu et la destinée que Dieu a pour l'homme dans chaque génération. C'est Jésus qui sauve. Et c'est pour ça qu'Étienne va leur dire, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, Ils ne veulent pas entendre. L'implication de ces choses-là devrait nous parler. C'est-à-dire, ces gens-là, par l'exhortation entière, et j'avance ici un peu plus loin, par l'exhortation, je voulais vous amener, qui ne sera pas vraiment très, très utile, je vais me concentrer plus sur le message que je veux vous transmettre que sur des petits éléments du message. Soyons bien, bien clairs. Étienne, dans l'intégralité du message qu'il a livré, il est en train de dire à ces Israélites-là, « Hommes au cou raide, réveillez-vous, écoutez, dur d'oreille, valable pour notre génération. » Valable pour notre génération. Et je vais aller encore plus loin. Valable des fois pour l'Église. Valable des fois pour des hommes et des femmes de Dieu, pour des enfants de Dieu qui résistent à la volonté de Dieu, qui résistent à obéir parce qu'ils ont leurs pensées propres, ils ont d'autres vues, ils savent eux autres comment ça marche. Puis ils disent à Dieu, je vais te montrer comment ça marche. Soyons bien, bien clairs, Dieu n'a pas besoin de nos conseils, soyons clairs. Nous avons besoin du conseil de la parole de Dieu. La Bible que Dieu nous a laissée, la parole de Dieu, cette Bible-là, c'est un pédagogue. C'est un miroir aussi pour nos âmes. C'est un miroir pour qu'on puisse voir nos âmes, voir qui l'on est, qu'est-ce qu'on a à corriger, qu'est-ce qu'on a à changer, qu'est-ce qu'on a à produire. Les pasteurs, en tant que pasteurs, les collèges pastoraux ou les différentes églises peut-être dans lesquelles vous êtes, je ne sais pas qui m'écoute de l'autre côté de l'écran, soyons clairs, et ces pasteurs-là puisent dans la parole de Dieu pour vous conseiller, puisent dans la parole de Dieu pour donner à l'Église l'impulsion nécessaire pour la sainteté, pour la sanctification. Mais si les hommes et les femmes ont le cou raide, les oreilles fermées, sont durs d'entendement, bien, ils vont lapider le pasteur. Je ne vous parle pas de physiquement lapider. J'ai eu une conversation cette semaine avec le pasteur Florent et je lui ai donné un conseil. une conversation qui est entre moi et le pasteur Florent, et vous ne saurez jamais c'est quoi. Et si le pasteur Florent m'écoute, ils ne sauront jamais c'est quoi, ni de toi et ni de moi. Parce que moi et toi, on va être. Et j'ai dit au pasteur Florent, il dit, oui, on va parler au peuple. Je dis, ne leur dis pas cela. Parce qu'on a des choses à cacher. Nullement. Parce que c'était quelque chose de privé entre moi et le bien-aimé que je calculais. Je ne pense pas d'être l'homme le plus sage du monde, là, mais que je calculais, c'est une information qui n'était pas judicieuse. Disons ça comme ça. Judicieuse, qui concernait en rien la marche que vous avez dans le Seigneur. Paul va dire, et loin de moi de me comparer à Paul, même pas à son petit ongle d'orteil, c'est pas ce que je veux dire, mais Paul va dire dans la parole, je prends juste ça pour servir d'exemple, Paul va dire, je vous ai annoncé tout ce qui était nécessaire à votre salut, ce qui était nécessaire. Ça veut dire que Paul en savait peut-être plus, mais il ne les a pas dit. Quand on donne un cours biblique, on regarde à qui on s'adresse, puis on adapte le cours biblique à qui on va parler. Hein, si on se met à donner un cours, là, on prend des termes compliqués, là, herméneutique, apologétique, exégétique, puis on sort les mots sur tous les côtés, les gens vont être là. Peut-être qu'en bout de là, on dit, ben, qu'est-ce qu'il est en train de dire, le gars? Soyons clairs. Donc, on adapte les choses. Mais la parole de Dieu ne s'adapte pas à elle. Elle est telle qu'elle est, cette parole-là. Elle ne s'adapte pas au siècle. Elle ne se change pas avec les siècles. La parole de Dieu reste le miroir dans lequel tu te regardes pour corriger ton âme. Hein? Comme quand tu te mets devant ton miroir naturel, si, admettons, tu t'aperçois que tu as une tache sur la joue, puis que tu dois sortir, eh bien, tu vas nettoyer la tache que tu as sur ta joue. Le miroir naturel te renvoie un reflet fidèle de minimum de ton visage. La parole de Dieu te renvoie un reflet fidèle de qu'est-ce qu'est l'âme humaine, un puits très profond, de qu'est-ce qu'est l'esprit humain qui a besoin d'être versé en Christ. Et c'est ce que Étienne fait ici. C'est ce qu'il va avoir fait tout le long avec ses auditeurs, dans la capacité de ses auditeurs, avec le type d'auditeur qu'il avait. Il a adapté le discours, il l'a mis intelligible, audible, mais à la fin, il va leur dire, vous avez le cou raide, vous fermez vos oreilles, vous êtes incirconcis de cœur, incirconcis d'oreille. Le terme incirconcis, ici, prend la forme de quelque chose qui n'a pas été enlevé, qui était là, pour nuire au bon fonctionnement. Puis là, je ne vous parle pas de l'incirconcision de la chair, là, qui est, c'est autre chose. Prenez pas ça comme. C'est pas de ça dont on parle. On est vraiment en train de parler de quelque chose qui nuisait en fait à leur compréhension. Puis c'était pas la loi de Moïse. Puis c'était pas le temple non plus. C'était la conception qu'ils avaient du temple, la conception qu'ils avaient de la loi de Moïse, la conception erronée des choses de Dieu. Sinon, s'il aurait regardé la parole de Dieu comme elle devait être regardée, il aurait reconnu le Christ. Il l'aurait reconnu parce que la parole de Dieu qu'ils étudiaient jour après jour annonçait cette venue-là de cette façon-là, annonçait même le lieu de la naissance, annonçait plusieurs paramètres dans lesquels ils pouvaient reconnaître la venue du Christ. Ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne reflétait pas le Christ qui est venu, le Christ qu'eux voulaient. C'est la même chose un peu des fois avec nous, avec la parole. On tronque des choses, on met des choses de côté. Un pasteur nous donne un conseil, qui prend dans la parole, on ne parle pas d'une opinion personnelle, qui prend dans la parole, il dit, mon frère, ma soeur, ça ne le fait pas de cette façon-là. La parole de Dieu nous dit, oui, puis tu sors de là. Puis on n'est pas plus bête que vous. Hein. On sait des fois que vous vous rendez dans nos bureaux. Puis en fait, ce que vous cherchez, c'est une approbation. Et quand on ne vous la donne pas, vous allez faire quand même ce que vous voulez faire. Puis, right, c'est correct. Comme j'ai dit une fois à quelqu'un, j'étais dans un mariage. Vous ne direz jamais qui. Vous ne connaissez pas cette personne-là de toute façon. J'étais dans un mariage, ça s'est passé dans ma famille. Et je sais que ça va vous sembler difficile. C'est un contexte particulier. C'est une personne qui m'est particulière. C'est dans ma famille. Il y avait un mariage. Cet homme-là a déjà accepté l'Évangile. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'Église. C'est dans ma famille un peu plus éloignée. C'est quelqu'un qui m'est resté proche, qui m'est encore proche. J'ai annoncé l'Évangile. Et on était au mariage de son frère. Et à un moment donné, il s'était fait une copine. Et c'est un homme du moins je crois bien, toujours tenu en bonne estime. Il est venu vers moi pour me la présenter. J'étais assis à la table avec mon épouse et avec d'autres invités de ce mariage-là. Et il s'est approché de moi, puis il me dit à moi, mon oncle. Là, vous savez que c'est un de mes neveux, mais j'en ai beaucoup. Okay, il m'a dit, mon oncle, je voudrais te présenter ma copine. Okay, il me présente sa copine. Bonjour, enchanté. Je continue à être à la table. On a dit, je continue à manger, mais je ne mangeais pas. Ma femme mangeait, les autres mangeaient, mais c'était un souper, donc je ne fais pas. Donc, j'étais là et j'entretenais la conversation. Je réfléchissais. À un moment donné, le Seigneur m'a donné. On ne fait pas ça au hasard. C'est une parole extrêmement claire. Très, 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 très claire. Et à un moment donné, il l'a laissé à l'autre table où il était. Et il est revenu vers moi. Et il me dit, puis mon oncle, qu'est-ce que tu en penses de ma copine? Je dis, écoute, je ne la connais pas, mais laisse-la. Il dit, pardon? Je dis, je ne la connais pas, mais laisse cette femme-là. Tu n'as rien à faire avec cette femme-là. Quitte cette femme-là. Il a tourné de bord, tout bébête. Après ça, je me suis dit, qu'est-ce que tu dis là? Quelques temps après, je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé, mais quelques temps après, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, dont des choses assez grandes, assez importantes. S'il aurait obéi, je ne vous parle pas d'obéir à moi. S'il aurait obéi, il serait sauvé peut-être un paquet de problèmes. Pas sûrement, il serait sauvé un paquet de problèmes. Si la parole de Dieu vous parle, vous devez d'obéissance. Peut-être vous pouvez vous dire, les pasteurs, c'est des hommes comme nous autres, et vous avez tout à fait raison. Mais si la parole de Dieu vous parle dans votre situation à vous particulièrement, si la parole de Dieu te parle ce soir, si tu as lu dans la parole de Dieu quelque chose aujourd'hui qui t'a parlé concernant des choses factuelles dans ta vie, concernant des choses que tu dois abandonner, des choses que tu dois mettre en ordre, plus tu tardes à obéir, plus tu augmentes le fardeau de ta peine. Dieu n'en souffrira pas, lui, soyons clairs. Les hommes de Dieu n'en souffriront pas non plus. Quand Dieu nous parle pour notre bien, à nous, soyons clairs. Donc, ceci étant dit, Étienne leur parle directement, homme ou courraine, mais ce qu'il leur dit, c'est pour leur bien. Donc, eux autres se trouvent devant un choix. Le choix de la repentance suite au message ou le choix du rejet. Ils prennent le deuxième choix, le choix du rejet. On va le lire. Acte, chapitre 7. Je terminerai avec cette portion-là de l'Écriture. J'aurais aimé me rendre un peu plus loin, mais on reprendra la semaine prochaine. Donc, eux se trouvent devant un choix, comme nous, on se trouve devant un choix depuis que vous avez entendu l'Évangile, vous avez le choix d'accepter ou de refuser. Le pasteur Florent a fait une annonce qu'on a discutée à quelques reprises, moi et lui, assez abondamment, concernant comment on ferait les baptêmes, comment on ferait les présentations de bébés. J'avais commencé à mettre sur papier des procédures pour les baptêmes, pour les présentations de bébés. J'ai parlé même avec le pasteur Florent de des choses qui sont à venir. Je lui en ai parlé, on discute, ça se fait de façon collégiale et ainsi de suite. Mais je parlais avec un bien-aimé hier, après l'Assemblée, puis il m'a dit, j'ai reconnu un peu ton humour à travers le pasteur Florent, quand il a parlé, qui a dit en avant, bon, on a discuté, moi et le pasteur André, puis on a dit, ben, il ne faut pas attendre que les petits bébés garçons qu'on présente avec de la barbe avant de les présenter. Il faudrait se décider. Puis j'aimerais pas présenter une petite fille au Seigneur, puis la marier le lendemain. Donc, j'aimerais que les présentations se fassent rondement. Mais vous savez, peut-être que vous êtes confortable la façon dont on l'a toujours fait. Et peut-être qu'on vous a placé dans une position inconfortable. Et vous avez le choix d'accepter ou de rejeter. Et je sais ici que je parle une femme en particulier, que je parle à des gens qui sont en réflexion sur leur baptême, sur le baptême d'eau. Qui se disent, ah non, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Moi, je vais dire au pasteur Florent, quand je vais donner le cours, je vais lui expliquer que ça va être tout à fait sécuritaire, ça va être tout à fait biblique. Ça ne sera juste pas tout à fait dans les normes dans lesquelles on a toujours pratiqué les baptêmes, mais je crois que les croyants doivent être baptisés à un moment donné ou à un autre. La COVID va finir par s'essouffler. Je ne voudrais pas attendre qu'Eva ait 25 ans pour la marier, pour la baptiser avant son mariage. C'est une blague, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut s'adapter. On n'adapte pas la parole de Dieu. On va adapter la procédure, soyons clairs. Vous avez le choix. Toi, ma soeur, qui m'écoute, qui est en train de prendre sa décision pour le baptême. D'ailleurs, je vais t'appeler. Soyons clairs. Je vais t'appeler. Je sais que tu m'écoutes, en plus. J'ai aucune preuve. Je sais que tu m'écoutes. Je vais t'appeler. Soyons clairs. Toi, tu dois faire ton choix. Même si c'est pur orthodoxe, on vit un moment particulier, on doit faire des choses qui vont avec ce moment-là, sans rien altérer de la Bible, sans rien altérer de la parole de Dieu. Sortir de notre zone de confort. Les pharisiens avaient ce choix-là. Le Sanhédrin avait ce choix-là. Le peuple avait ce choix-là. Il y avait un choix, la repentance ou le rejet. Ils ont choisi le rejet. Le verset 54 au verset 60 du chapitre 7 nous dit, « En entendant ces paroles, hommes au coured, incirconcis de cœur et d'oreille, ce que vos pères ont été, vous l'avez été, vous êtes des assassins. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Vous ne voulez pas entendre. En se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Il est mort, en bon français. Les dirigeants juifs, à l'exemple de leur père, ont fait exactement ce que leurs pères ont fait avec les prophètes. Ils ont réagi par la violence. La réaction violente du Sanhédrin, d'ailleurs, a empêché la justice légale de s'exercer. Parce que selon la justice légale romaine, ils n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'est pour ça qu'ils ont pris Jésus et qu'ils l'ont fait comparaître devant Pilate. Ils violent eux-mêmes le sixième commandement. Ils violent eux-mêmes la loi de Moïse. Ce à quoi ils disent croire en lapidant Étienne. Quand ils ont livré Étienne à la mort, non seulement ils ont violé la loi romaine, ils ont violé la loi de Dieu, et pour diverses raisons. Mais regardez la réaction du bien-aimé. La réaction du bien-aimé est une réaction de miséricorde devant ses bourreaux, de miséricorde devant ceux qui sont en train de mettre un terme à sa vie. La parole de Dieu nous dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, debout, vit Jésus à la droite de Dieu. La droite ici, ce n'est pas qu'il a vu un petit bout de l'épaule de Dieu, puis qu'il a vu Jésus après, là, puis qu'il a dit, OK, il est à droite. Non, non. La droite, c'est qu'il a vu la puissance de Dieu. D'accord? La droite fait toujours, vous chercherez dans la Bible là, à plusieurs endroits, là, la droite fait office non d'une personne, mais de puissance. Hein, quand la parole de Dieu dit, Dieu te soutient par sa droite, Dieu ne prend pas vraiment sa main droite pour te soutenir, mais te soutient par sa puissance. Je vous donne juste ce terme-là. Et quand Jésus est monté au ciel, la parole de Dieu a dit, c'est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, c'est assis dans la plénitude de sa puissance, si vous voulez. Et là, on voit Jésus, non pas assis, mais debout. Debout. Vous savez, comme quand quelque chose vous outrage, comme quand quelque chose de grave se passe, où vous vous levez promptement, où vous réagissez à quelque chose qui se passe, qui est quelque chose qui peut être tout à fait dérangeant ou grave. C'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici. Devant la mort d'Étienne, Jésus debout. La mort de ceux qui aiment Jésus n'est pas quelque chose que Jésus va vous. C'est sûr que le Seigneur accueille, mais c'est sûr qu'elle a du prix aussi, la vie. Je vous ai dit que Dieu ne voyait ni la vie ni la mort comme nous, mais elle a quand même du prix. Et des fois, même nos réactions vont faire réagir des gens. Et je vous le dis très, très rapidement, une expérience personnelle ici. Et je ne prendrai pas le temps de vous donner tous les pourtours, mais ça a créé un effet choc chez un compagnon de travail. Moi, j'étais à un bureau, lui était à l'autre bureau. Et à peu près, pour ceux qui me connaissent un peu mieux, vous savez que j'ai un fils qui est décédé le lendemain de ses noces lors d'un accident. Il s'est marié, il y a eu un accident, il est décédé. Mais vers le moment de sa mort, et c'est pas où l'Esprit de Dieu nous prépare, nous avertit quand on est à l'affût. La parole de Dieu nous dit qu'on a un Dieu de révélation et Dieu nous aime. Okay? Et cet homme-là, après ce qu'il a vu, chez moi, cet homme-là est venu à l'église quelques fois. Est-ce que cet homme-là va se convertir un jour? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, j'étais assis à mon bureau, j'étais en plein travail et j'étais saisi d'une angoisse. Et j'ai poussé mon banc et j'ai dit à haute voix, sans même m'apercevoir, parce que l'émotion était trop intense, j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Puis lui, il m'a regardé, l'air surpris de voir que je parlais à personne, et je me suis levé de ma chaise et je me suis mis à arpenter l'endroit. Puis il me dit, André, qu'est-ce qu'il y a? Puis je l'ai regardé et j'ai dit, Richard, il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans ma famille. Il y a quelqu'un qui est mort. Mais je ne savais pas qui. Puis là, j'ai dit, le patron va venir. Mais au moment où je finissais ma phrase, le patron montait, puis il me disait, André, puis il me tendait, parce qu'on n'avait pas le droit de téléphone. L'employeur ne veut pas que les gens utilisent leur propre téléphone. Donc, soyons clairs. Donc, il est venu me porter son téléphone. Il s'est enchaîné une suite d'événements. Là. Mais cet homme-là, ça l'a surpris. Puis cet homme-là, il était à l'église deux semaines après. Pourquoi? Parce que la chose l'a surpris. Dieu s'est servi de l'événement, soyons clairs. Je ne suis pas en train de vous dire que autre chose que ce que je suis en train de vous dire. tandis que l'événement arrive, Dieu s'en est servi pour appeler un homme. OK? Soyons clairs. Mais moi, ma réaction en tant qu'humain, je me suis levé. Quand ça, je me suis levé debout. Je ne suis pas un homme extrêmement... je suis difficile à déranger, soyons clairs. Mes enfants sautaient devant moi pour me faire boue ou n'importe quoi. J'ai un caractère à peu près stable, soyons clairs. Ma femme pourrait vous dire, très, très stable. Je me rappelle un peu quand j'avais été voir le médecin qui m'avait dit que j'avais le cancer. Je suis arrivé, j'avais dit à ma femme, j'ai le cancer. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais commencer par faire une sieste parce que j'ai une assemblée à soir. Après ça, je me suis dit, c'est un peu... mais je sais que c'est la paix de Dieu, là, soyons clairs. Je sais que c'est la paix de Dieu, là, soyons bien, bien, bien clairs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette fois-là, j'ai bondi sur ma chaise. Et si nous, ça nous surprend, il n'y a rien qui surprend Dieu. Et pourtant, à la mort d'Étienne, Étienne voit Jésus debout. Debout. Voit Jésus debout pour l'accueillir. Étienne donne sa vie et il a fait comme son maître. Il a remis sa vie entre les mains de son Seigneur. Il a fait comme son maître. Il a prié pour ses bourreaux. Soyons clairs, ce ne fut pas une défaite pour Étienne. Ce ne fut pas une destruction pour Étienne. Ce fut une délivrance pour Étienne. Puis dans Actes chapitre 7, je vous tiens un peu plus longtemps, là, verset 58, c'est l'introduction de Saul de Tarse que je vais vous parler un peu la semaine prochaine. Là, on va s'arrêter là. Donc, on va reprendre au verset 58 la semaine prochaine. C'est l'introduction de Saul, celui qu'on appelle dans les Épîtres Paul, le grand apôtre Paul, celui qui a écrit quasi la totalité des Épîtres, celui par lequel, sans ses écrits, on ne saurait pas vraiment comment se conduire dans la vie chrétienne. On ne saurait pas vraiment comment organiser une église. Parce que ce n'est pas les évangiles qui nous donnent ça. Les évangiles nous donnent le message du salut, nous donnent la vie de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit pourquoi que ça a été écrit dans l'évangile de Jean, à la fin de l'évangile. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Sans les écrits de Paul, on aurait de la difficulté à savoir comment on se comporte dans le Seigneur, comment on se comporte dans l'Église, comment on se comporte avec nos enfants, comment on se comporte avec nos femmes, comment on se comporte avec nos employeurs. C'est l'apôtre Paul qui nous a donné. Pas lui, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dieu s'est servi de l'apôtre Paul et c'est par lui qu'on a reçu ça. Mais vous allez voir qui était Paul la semaine prochaine, avant d'être l'apôtre qu'on connaît. Paul était un meurtrier. Paul était un persécuteur. Donc, ne vous découragez pas des gens pour qui vous priez. Si vous dites, il ne viendra jamais à l'évangile celui-là. Il va être dur à convaincre celui-là. On ne convainc personne, nous. C'est Dieu qui convainc. On prie. On prie pour que les gens réalisent leurs conditions, que les gens viennent à l'Évangile. Donc, je termine avec ceci. Étienne a fait tout son travail et il a été rappelé à la maison. Et on va avoir l'introduction, on a eu l'introduction au verset 58. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul, Saul de Tarse, son nom grec Paul. Donc, on va prendre ça à partir de la semaine prochaine. On va arrêter là pour cette semaine. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que ton peuple puisse croître à travers la parole, que ton peuple puisse avoir des oreilles bien ouvertes, un cœur bien disposé et bien aligné sur ta parole, ô Dieu. On fait les choses des fois différemment à cause des circonstances, mais ça ne veut pas dire que ta parole change. Ta parole reste la même. Toi, tu dis dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que tu ne changes pas. Donc, ta parole, Seigneur, les hommes veulent la tordre, les hommes veulent quelquefois la changer, mais ta parole demeure ce qu'elle est, la vérité, Seigneur. Donc, Seigneur, que cette vérité, Seigneur, puisse s'installer profondément en nous, Seigneur, et que ce cours, Seigneur, puisse faire le travail pour lequel il est donné, c'est-à-dire exhorter. Je veux m'attacher surtout à l'exhortation, Seigneur, pendant ce cours. Exhorter à la persévérance avec tout de même un fond d'enseignement historique et un fond d'enseignement fonctionnel pour l'Église, ô Dieu. Je te remets ton peuple entre tes mains. Que ta bénédiction repose sur chacun d'eux. Et repose, Seigneur, sur nous, Seigneur, qui avons tout au long de la semaine apporté les messages. J'ai prié, Seigneur, en ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, on va commencer à regarder un peu la vie de l'apôtre Paul. Soyez bénis.